Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est 18h à Kinshasa, 19h à Goma. Bienvenue à l'écoute de ce journal dont voici les titres. En Ituri, deux personnes et six membres de la task force composée des anciens seigneurs de guerre de cette province ont été pris en otage hier mercredi par des miliciens de la Codeco. C'était pendant une réunion pour sensibiliser les leaders de ce groupe armé à déposer les armes. 7 millions de personnes auront besoin d'assistance. 27 millions de personnes auront besoin d'assistance humanitaire cette année en République démocratique du Congo. Et leurs besoins sont évalués à près de 1,9 milliard de dollars américains. Des chiffres révélés à l'occasion du lancement ce jeudi à Kinshasa par le gouvernement du plan humanitaire 2022. L'invité de ce journal est Christian Moulindoua, un ex-enfant soldat qui a passé plus de 2 ans dans le rang d'un groupe armé. Il interpelle le gouvernement et ses partenaires à s'assurer de la réinsertion socio-économique des enfants sortis des groupes armés. Mesdames, Messieurs, bonsoir. En Ituri, deux personnes et six membres de la task force, cette délégation composée des anciens seigneurs de guerre de l'Ituri, dépêchés par le président de la République et deux autres personnes, ont été prises en otage mercredi par des miliciens de la Codeco. C'était pendant une réunion qui se tenait au camp Yalala, proche de Bambou, à 45 km au nord de Bounia, dans les territoires de Djougou, pour sensibiliser les leaders de ces groupes armés à déposer les armes. Selon des sources concordantes, les tractations sont en cours pour obtenir leur libération. Des détails avec Isaac Remouyopi.
Cette délégation d'une dizaine de personnes s'était rendue mardi à Kobu pour encourager le retour de la population qui avait fui les atrocités des groupes armés. Ensuite, elle a tenu un meeting populaire à Bambou avant de rencontrer mercredi un groupe de miliciens de la Codeco au camp Yalala à 2 km du centre commercial. 8 membres de la délégation ont été pris en otage, dont le coordonnateur Thomas Lubanga, son adjoint Floribert Ndjabou, le général des FARDC Germain Katanga. Parmi ces otages, il y a aussi 2 colonels, le professeur Dechouvi et le président de l'INADI, structure qui regroupe toutes les communautés de l'Ituri. Ces otages ont été conduits au bastion de cette milice à Goutsi. Selon les porte-parole de la task force, ces miliciens justifient leur action par les soucis de mettre à l'abri ses membres pendant les bombardements de l'armée hier mercredi contre des positions de la Codeco, Pichu Iribi.
Selon les miliciens, c'est à la suite d'un bombardement que les membres de la task force, à l'exception du porte-parole et des 2 journalistes, ont été extraits pour être mis à l'abri, de sorte qu'ils ne soient pas rentrés depuis hier. Toutes les informations reçues de ces éléments de Codeco rassurent que les membres de la task force sont bel et bien vivants et bien portants.
Selon des sources de sécurité, des tractations sont en cours pour obtenir leur libération. Bounia Isaac Remoyo, Radio Okapi.
Et toujours en Ituri, pendant ce temps, les leaders de la milice Codeco conditionnent la libération des membres de la task force par le respect de leur cahier de charge par le gouvernement de la RDC. Isaac Remoyope revient encore une fois sur les revendications de ce groupe armé.
C'est depuis 2017 que la milice Codeco est active en Ituri. Elle est actuellement divisée en 6 factions au moins qui commettent des exactions dans les 3 territoires d'Irumu, Djougou et Mahagi. Les principales revendications de ces groupes armés sont notamment le cessez-le-feu pour permettre les négociations avec le gouvernement, l'intégration de ces combattants au CDFARDC et leur prise en charge intégrale pendant les processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire. Ces groupes armés exigent également la libération de tous les détenus membres de cette milice qui sont incarcérés à la prison centrale de Bounia et celle de Makala Kinshasa, mais aussi la levée de l'état de siège qui, selon ses leaders, est une mesure qui vise à combattre cette milice qui pourtant avait donné son accord aux anciens seigneurs de guerre envoyés par les chefs de l'État pour déposer les armes. Les leaders de cette milice sollicitent également l'implication directe du président de la République pour le rétablissement d'une paix durable en Ituri. Pour rappel, certaines factions de ces groupes armés coalisent avec la milice FPIC, Force Patriotique et Intégrationniste du Congo. Ils sont accusés d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme, dont les meurtres, les enlèvements, les incendies des maisons et les déplacements des milliers de populations civiles. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la cour militaire exige la comparution des deux hauts officiers de l'état-major général des FARDC, dont un général et un colonel, dans l'affaire de tentative de corruption à la délégation de l'inspection générale des FARDC. Cette cause oppose depuis plus de trois mois trois officiers de la 34e région militaire à l'auditeur militaire supérieur. Cette requête a été formulée hier mercredi par le président de la Cour lors de l'audience prévue pour le prononcé de l'arrêt. Le point avec Gabriel Ouaménia.
Les trois prévenus, le lieutenant-colonel Ngoï Katenga Jerry et les deux capitaines Alimasi Touma et Lasikaba Mokili Innocent, attendaient déjà à la barre le prononcé de l'arrêt de la cour pour être fixé sur leur sort. Mais c'était le suspense. Le président de la cour, le lieutenant-colonel Tumuna, suspend l'audience et annonce séance tenante la réouverture du débat dans cette affaire. Il fonde son opinion en évoquant l'article 249 du Code judiciaire militaire qui lui confère ses compétences liées à son pouvoir discrétionnaire. Les magistrats exigent alors la comparution du général Bonyoma et du colonel Ndala, tous basés à Kinshasa, à l'état-major des FARDC. Ces deux officiers, qui doivent comparaître à titre de renseignants, ont été régulièrement cités par les prévenus dans cette affaire des tentatives de corruption depuis l'instruction préjuridictionnelle jusqu'à la phase juridictionnelle, a indiqué un des avocats des prévenus. S'ils sont reconnus coupables, ils pourraient être inculpés comme leurs compagnons et jugés dans une juridiction militaire compétente. La prochaine audience dans cette cause a été renvoyée à la date du 23 février prochain. Goma, Gabriel Ouaménia, Radio Okapi.
Les familles des accompagnateurs des experts de l'ONU tués en 2017 au Kasaï veulent obtenir des amples informations sur l'affaire de leurs membres. Elles l'ont fait savoir à travers leur conseil, à travers une lettre adressée hier mercredi à l'auditeur militaire supérieur de l'ex-Kasaï occidental. À en croire Maître Dominique Kambala, les dossiers ouverts depuis 2019 au parquet doivent être fixés devant les juges après le verdict rendu sur celui des deux experts de l'ONU. Il est au micro de François Kadima.
Ces familles veulent justice en voyant que l'affaire de deux experts onusiens se clôturait parce que ces familles vivaient du petit job de ses amis. Et aujourd'hui que ces amis-là ont été tués, les familles sont en déséquilibre. Donc il y a aussi ces problématiques de connaître la vérité, d'avoir droit à la justice et d'avoir droit à réparation. Nous réclamons que le dossier soit fixé. Il est inadmissible que dans cet élan de construction d'un état de droit, que ce dossier ne soit pas fixé. Parce que l'auditorat supérieur militaire devait transmettre le dossier à l'auditorat des garnisons afin que le dossier soit renvoyé au tribunal militaire des garnisons. Et à notre niveau du cabinet, nous avons obtenu le jugement déclaratif des décès pour Pascal Nzala et pour Isaac Kabwai. Et nous avons transmis ces jugements comme preuve qu'il y a des décès, que ça ne pouvait pas traîner pour que ce dossier soit fixé et que ces familles puissent connaître finalement quel est le sort, qu'est-ce qui est réservé.
Contacté, l'auditeur militaire supérieur a promis de réagir après avoir pris connaissance de la lettre lui adressée. Par la même revendication formulée par les victimes du Grand Kasaï, Jean-Blaise Bouamouloundou avait expliqué que les enquêtes étaient encore en cours sur ce dossier des accompagnateurs. 27 millions de personnes auront besoin d'assistance humanitaire cette année en République démocratique du Congo et leurs besoins sont évalués à près de 1,9 milliard de dollars américains. Chiffre révélé à l'occasion du lancement par le gouvernement du plan humanitaire 2022 ce jeudi ici à Kinshasa en présence de plusieurs représentations diplomatiques des pays donateurs. Honoré Missenga Kalala était de la cérémonie.
La ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui essaie à au nom du Premier ministre représenter le gouvernement à cette cérémonie. L'ONU, les donateurs ainsi que les acteurs de terrain sont tous unanimes. Cette année encore, la situation humanitaire en République démocratique du Congo demeure grave et complexe, surtout dans l'est du pays. Elle nécessite la mobilisation de 1,880 milliards de dollars américains pour assister 27 millions d'individus, dont 8,1 millions seront considérés comme les plus vulnérables. Nourriture, eau, médicaments, abris, protection et autres vont constituer les besoins prioritaires de ce plan humanitaire. En 2021, c'est 19,6 millions de personnes qui avaient besoin d'assistance et de protection contre 15,6 millions l'année précédente. 1,980 milliards de dollars avaient été sollicités auprès des bailleurs. 39% seulement de ce budget ont été mobilisés. Toutefois, plus de 5,4 millions de personnes ont vu leurs besoins alimentaires couverts pendant cette période. 1,2 million d'enfants atteints de malnutrition aiguë ont eu accès aux soins et près de 2,1 millions de personnes ont bénéficié des transferts monétaires.
Il se tient à Bruxelles depuis ce jeudi jusqu'à demain vendredi, le 6e sommet de l'Union européenne et l'Union africaine. Ce sommet a pour but de jeter les bases d'un partenariat renouvelé et approfondi entre les deux organisations. Des tables rondes thématiques seront organisées. Il s'agit par exemple du financement de la croissance, du système de santé et des productions de vaccins, de la paix, la sécurité et la gouvernance. Il s'agira aussi des questions sur le changement climatique. La République démocratique du Congo est représentée à ce sommet par son Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Retour en force du phénomène Kuluna dans plusieurs quartiers et communes de la ville de Kinshasa. La population s'en plaint. Dans certaines parties de Makala, Lemba ou Kisenso par exemple, des affrontements sont courants entre écuries des quartiers ou des communes voisines. C'est ce que dénoncent les bourgmestres de ces municipalités. Ces derniers plaident pour un renforcement du dispositif de la police. Ils demandent aussi à la justice de sévir davantage. Le bourgmestre de Lemba revient ici sur le cas de sa commune. Jean Saka a été joint par Babel Mpongo Masimango.
Ça commence à devenir pratiquement coutume à Lemba que les jeunes qualifiés comme Kuluna s'affrontent. La grande partie vient d'Engaba. Dans la partie sud de Lemba, il y a des jeunes qui viennent entre la frontière de Lemba et Kisenso. Il y a un autre groupe qui sort vers Kiimbi, frontière avec Matete et Kisenso. Et le plus important, qui sort du camp Kabila et du camp Bumba. Le phénomène Kuluna prend de plus en plus d'ampleur. Nous avons, dans nos débuts, interpellé un bon nombre de ces jeunes gens. Ils ont été jugés en flagrance aussi pour quelques-uns. Ils ont été déférés à Makala. Il y en a qui étaient condamnés à 15 ans, ceux qui étaient condamnés à 10 ans, ceux qui étaient condamnés à 7 ans, presque moins d'une année. Tous sont dehors. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire, la situation n'est pas très bonne par rapport à ces groupes de bandits, je ne vais pas mâcher le mot, qui blessent, ils cassent les biens de privé.
Au Congo central, le maire de la ville de Boma met en garde les étudiants qui s'inscrivent dans les établissements d'enseignement supérieur non viables et interdit de fonctionner en République démocratique du Congo. Dans un communiqué officiel rendu public hier mercredi, Marie-Josée Nyongonswami rappelle que la mesure portant fermeture des établissements d'enseignement supérieur non viable prise par le ministère de tutelle dans sa note circulaire du 20 décembre 2021 n'est pas encore abrogée. D'autres détails avec Nana Plurich Mambou.
Dans ses communiqués dont le maire de la ville de Boma a réservé copie pour information aux membres du conseil urbain de sécurité, aux bourgmestres, aux chefs des quartiers, au conseil urbain de la jeunesse ainsi qu'au cadre des concertations de la société civile tous à Boma, Marie-Josée Nyongonswami dit avoir remarqué et rappelle au public que certains établissements d'enseignement supérieur et universitaire déclarés non viables, fermés et interdits de fonctionner au pays, y compris dans la ville de Boma, sont malheureusement en plein exercice sans documents contraires délivrés par l'autorité des tutelles. Dans ces mêmes documents, Marie-Josée Nyongonswami, en tant que cadre territorial, se reconnaît incompétente de réguler le fonctionnement du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Cependant, cette dernière invite les étudiants et leurs parents à ne pas se faire flouer et à prendre soin de se faire inscrire dans les structures reconnues viables par les ministères de l'enseignement supérieur et universitaire. À cet effet, Marie-Josée Nyongonswami, maire de Boma, interdit préalablement des troubles à l'ordre public le moment venu, car les diplômes que délivreront ces institutions non viables ne seront pas reconnus. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Les gestionnaires des écoles maternelles, primaires et secondaires de la province éducationnelle Mai Ndombe 3 doivent bannir les antivaleurs pour la bonne éducation des apprenants dans cette entité. Ce message d'engagement est de Nestor Ntumba, directeur provincial de cette division, dira son passage à sa tête devant plusieurs chefs d'établissement scolaire de son ressort, réunis hier mercredi à Koutou. Il a indiqué que des sanctions seront infligées aux récalcitrants conformément aux instructions du service de l'EPST. Irène Boma pour les détails.
Lutter contre les antivaleurs dans le secteur de l'EPST, tel est l'objectif assigné par le nouveau directeur provincial de la province éducationnelle du Maïndombe 3. Il l'a dit mercredi lors de son premier entretien avec les gestionnaires des établissements scolaires maternels, primaires et secondaires de son ressort à Koutou, siège de l'institution. Pour lui, les antivaleurs ternissent l'image de l'enseignement dans le Maïndombe. Et tous ceux qui ne vont pas se conformer à cette disposition seront sanctionnés afin d'assainir le secteur, a martelé Nestor Ntumba.
Nous devons lutter contre toutes les antivaleurs à l'EPST. Les antivaleurs dont je fais allusion ici, c'est par exemple Moyen-Âge de points qui est interdit, harcèlement sexuel, les frais d'inscription qu'ils demandent là, les frais de confirmation de place. Un enfant qui a réussi dans votre école pour passer dans la classe supérieure, vous lui demandez l'argent, les frais pour l'organisation de l'examen d'état maquis ou consort. Si on apprend que vous êtes en train de continuer avec ces antivaleurs, eh bien, à l'EPST, il y a des suspensions, il y a des mesures qu'on va prendre.
Nestor Ntumba appelle ses chefs d'établissement à relayer les messages à leurs enseignants afin de parler le même langage et sauver l'éducation des apprenants. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'Union européenne a décidé il y a quelques jours la levée des sanctions budgétaires prises contre le Burundi il y a 5 ans pour de graves violations des droits humains dans le pays. On est alors au plus fort de la crise née en 2015 de la décision du président de l'époque de fin, Pierre Nkurunziza, de briguer un troisième mandat aux grandes dames des organisations des droits de l'homme.
L'invité.
L'invité de ce journal est Christian Moulindoa, un ex-enfant soldat qui a passé plus de 2 ans dans les rangs d'un groupe armé. Il interpelle le gouvernement et ses partenaires à s'assurer de la réinsertion socio-économique des enfants sortis des groupes armés. Il s'entretient avec Emmanuel Elamejiwa Wakabedi.
Bien, monsieur Christian Moulindoa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Tu as fait l'armée comme Kadogo, c'était à quel âge ? Comment c'était arrivé que tu sois enrôlé des forces dans l'armée cette fois-là?
À l'époque, j'avais encore 12 ans parce que je revenais juste de l'école. Je faisais la 6e primaire. Puis ces gens, parce qu'ils étaient dans notre village à Nyangezi, ils m'ont récupéré. Ils m'ont dit non, vous pouvez nous aider pour nous faire arriver notre fagot à là où nous sommes. Et c'est comme ça que je suis parti parce que je n'avais pas de choix. J'ai fait 2 ans là.
Alors, comment est-il arrivé que tu sortes de là?
C'était toujours... Avec le programme de démobilisation, notre groupe armé a été sensibilisé de libérer des enfants. Et le commandant a cédé, il a accepté. C'est comme ça qu'on nous a confié au centre du BVS. On l'appelle un centre de transit et d'orientation. Et c'est là où on a été encore de nouveau appris comment vivre en société, comme civil, parce que là on était déjà militaire. Et c'est comme ça qu'on a commencé les études. J'ai obtenu mon diplôme d'État et puis actuellement, je suis déjà dans la communauté.
Décris-nous un peu la vie au centre. C'était combien de temps que tu as passé au centre de transit et d'orientation? Et qu'est-ce qu'on t'a appris pour effacer peut-être ce que tu voyais en brousse là?
Oui, au centre, c'est normal. C'est autour de 3 mois si vous retrouvez votre famille facilement. Comme moi, ma famille n'était pas du tout loin. J'ai fait ne fût-ce que 3 mois. Et ce qu'on nous apprend dans les centres, c'est de vivre encore avec les autres. Donc, c'est comprendre qu'on revient dans la vie civile et qu'on doit donc vivre avec d'autres jeunes du quartier, d'autres jeunes de la communauté, et qu'on doit laisser d'être barbare parce qu'il y a des encadrés qui nous encadraient, qui nous prenaient comme leurs enfants.
Alors, Christian est sorti, il a fait les études, il a eu le diplôme d'État. Et après le diplôme, quelle vie tu as embrassé maintenant? Tu fais quoi?
Après le diplôme, nous nous sommes dit qu'il fallait créer une organisation appelée Coopérative des personnes victimes de guerre dans les Grands Lacs. Et c'est là où elle est en tout cas composée en grande majorité par des ex-enfants soldats. Le but principal était montrer aussi à la face du monde, à la communauté congolaise, dans la société où nous vivons, que les jeunes, après avoir fait l'armée, bien qu'ils ont fait l'armée involontairement, mais ils sont aussi capables de faire quelque chose. Mm-hmm. Et donc la force qu'on utilisait là par contrainte, c'est nous avons cette force, nous sommes dit que nous pouvons faire des travaux. Et c'est comme ça que notre organisation actuellement, nous encadrons donc des jeunes. Oui. En coiffure mixte par exemple, il y a un centre pour l'informatique, il y a un centre pour la fabrication des gouttières et des braseros. Et nous encadrons même les mamans au sein des AVEC pour leur autonomisation financière.
C'est combien anciens enfants soldats dans votre organisation? Vous êtes à combien?
En tout cas, chez nous, c'est autour de 75 jeunes.
Vous avez des moyens pour faire tout ça ou vous êtes appuyé?
Actuellement, nous ne sommes pas en tout cas appuyés. Nous avons commencé petit à petit parce qu'il y avait une vision pour que nous nous encadrons nous-mêmes. En tout cas, nous ne pouvons que demander à tout un chacun, des organisations, même des personnalités, des personnes de bonne volonté, de nous venir en aide parce que c'est un travail qu'on ne peut pas faire tout seul.
Et pour terminer, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement congolais, vous qui êtes sorti, qui avez accepté de vivre dans la vie normale, la communauté?
Bon, moi, j'ai lu la résolution 2250 qui parle de la jeunesse avec son 5 piliers. Il y a la 5e pilier qui parle de la réinsertion économique de ces enfants qui ont fait l'armée. Moi, je pense que c'est là où nous pouvons, en tout cas, à travers cela, que le gouvernement est demandé d'accompagner ces jeunes. Et donc, nous demandons au gouvernement congolais, avec le programme de démobilisation, désarmement, démobilisation et réinsertion
communautaire.
Nous demandons en tout cas assez qu'on puisse tenir compte de la part aussi des enfants qui ont fait l'armée. Parce qu'il y en a ceux qui vagabondent partout là parce qu'ils ne sont pas accompagnés. Il y a même des travaux comme des cantonniers qu'on peut leur accorder à ces jeunes. Il y a beaucoup de travaux. Si en tout cas il y a quelqu'un qui peut plaider de leurs problèmes, en tout cas il peut y avoir une solution.
Christian Molindoa, merci.
Je vous remercie aussi.
C'était notre invité Christian Moulindois, ce texte Enfant soldat s'entretenir avec Emmanuel et la Meji Wakabedi. Fin de ce journal, vous pouvez continuer à le réécouter sur toutes les plateformes numériques de Radio Okapi.